VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
17h à Ouagadougou, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Sommet du G20 à Hambourg en Allemagne. Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu ce vendredi un long tête-à-tête en marge de la réunion. Leur premier face-à-face depuis l'élection du nouveau locataire à la Maison-Blanche. Selon l'agence Reuters, dans le cadre des consultations entre les deux leaders, les États-Unis, la Russie et d'autres pays concernés par le conflit syrien seraient parvenus à un accord de cessez-le-feu couvrant le sud-est de la Syrie. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson devrait donner incessamment plus de détails sur cet accord aujourd'hui à Hambourg. Par ailleurs, les affrontements entre policiers et manifestants hostiles au G20 continuent en marge du sommet. Le point avec Saloua Djafari.
Les protestataires avaient promis l'enfer pendant le G20, voitures de police incendiées, 160 policiers blessés. Ils ont été nombreux à battre le pavé depuis jeudi, au moins 45 d'entre eux ont été arrêtés. À l'intérieur de l'enceinte ultra sécurisée où se sont réunis les chefs d'État, l'ambiance est électrique avec en point d'angle le premier face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont bien entretenus. Pourtant, il y a moins de 24 heures à Varsovie, Donald Trump critiquait ouvertement le rôle déstabilisateur de la Russie. Outre ce temps fort, le G20 va débattre de sujets difficiles comme le climat et le commerce. La chancelière allemande Angela Merkel.
Nous connaissons tous les grands défis mondiaux et nous savons que le temps presse. C'est pourquoi nous ne pourrons trouver des solutions que si nous sommes prêts au compromis.
Les États-Unis ont déjà remis en cause les accords de Paris sur le climat. Ils agitent en outre des menaces de taxes contre la Chine sur l'acier et contre l'Allemagne dans le secteur automobile.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Procès des biens mal acquis à Paris, l'ONG Transparency International dans le viseur des présidents de Guinée équatoriale, Gabon et Congo-Brazzaville. En effet, le chef de l'État équato-guinéen, Théodoro Obiang, a annoncé une plainte commune contre cette ONG dans le cadre de cette affaire. Éric Manirakiza.
Le président de Guinée équatoriale a déclaré que l'achat de biens en Europe n'est pas interdit par une quelconque disposition nationale ou internationale. Théodore Obiang a aussi précisé qu'un pays tiers ne peut non plus déclarer illégaux ses biens en provenance d'un autre pays. Son fils et vice-président, Théodorine Obiang, est jugé à Paris. Mercredi, le parquet a requis 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis dépassant 100 millions d'euros. La défense a dénoncé une mascarade. Le verdict est attendu le 27 octobre. Considérant que la justice française fait de l'ingérence dans les affaires d'un État souverain, Théodore Obiang a dit qu'il va concerter les présidents gabonais Ali Bongo et congolais Denis Sassou Nguesso, également visés dans la même affaire, pour porter plainte contre l'ONG Transparency International qui s'est constituée partie civile à son procès.
En Égypte, au moins 26 soldats égyptiens tués ou blessés dans une vague d'attaques, dont des attentats à la voiture piégée, contre plusieurs points de contrôle dans le nord du Sinaï, région du nord-est du pays où sévit le groupe État islamique. Le point avec Ekia Badou.
L'Égypte est à nouveau frappée par des attaques terroristes avec des attentats à la voiture piégée. L'armée a répondu en abattant une quarantaine d'assaillants. Les événements se sont déroulés au sud de la localité de Rafah, proche de la frontière avec la bande de Gaza. L'Égypte se relève à peine de la double attaque d'avril visant des chrétiens. Depuis, le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence pour 3 mois et a accusé les djihadistes de vouloir semer la division en s'en prenant minorités comme les Coptes, qui représentent 10% de la population. Depuis le renversement en 2013 du président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, des islamistes extrémistes, notamment province du Sinaï, qui a prêté allégeance au groupe islamique, ont multiplié les attentats contre les militaires et policiers en tuant des centaines dans la péninsule du Sinaï.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Blanche Sano avec vous pour la Minute Éco. Un rapport de deux centres britanniques de recherche nous fournit un aperçu de la performance économique du Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et l'Angola. Selon ce rapport, le Kenya a considérablement bénéficié d'une croissance forte de ses partenaires régionaux, comme l'Ouganda qui reçoit 11% des exportations kenyanes en 2016 et 41% vers le continent africain. Kalo, une start-up qui propose de conseiller les agriculteurs sur le prix de vente de leurs céréales. Mise en selle par l'ONG française Rongid et son partenaire ETC Terra au Burkina Faso, la start-up est présente dans 7 pays. Le concept aura permis à plus de 73 000 agriculteurs répartis entre le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, la Gambie et le Soudan de générer un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Au Niger, le lycée professionnel de l'hôtellerie et du tourisme ouvert en 2015 est en pleine restauration. La Banque mondiale devrait injecter 800 millions de francs CFA pour moderniser les équipements et améliorer les niveaux de formation en recrutant des professeurs venus de l'étranger, principalement du Maghreb. Ce lycée unique au Niger a été lancé par un cabinet d'études tunisien.
Musique et info pour chacun, VOA Afrique.
Afrique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.